Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
Wither, ladies, wither! He's gonna set the world on fire! Right here from 5 to 7, you know everything there is to know about that demon! His dreams, his desires, his most intimates of intimates. And from what I'm looking at, intimate is his stud muffin's middle name. So tell me, my man, you nervous in the circus?
Not really.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, toi-même Sébastien.
Ça va très bien maintenant que l'électricité fonctionne partout dans la maison. Et non dans la moitié.
C'est sûr que ça aide.
Ouais, surtout qu'à la moitié qu'il n'y a pas d'électricité, c'est la moitié que j'ai besoin pour enregistrer Vision X. Mais on a réussi à tout régler, on est de retour, tout va bien. Comme le dirait si bien Candide, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et toi, passez une belle semaine?
Très belle fin de semaine. Une belle semaine, une belle fin de semaine. Des super beaux contrats musicaux. C'était vraiment cool. Et puis, j'ai une super belle partie de Donjons Dragons aussi. Fait que.
Bref, mais intense.
Bref, mais intense, voilà. Là-dessus... C'était avec Sébastien il y a de cela 3 heures.
Ouais,
4 heures.
C'était. Ça fut short and sweet, mais c'était. On les aime des fois de même. Là. Des fois, ça fait du bien de pas.
Non, mais tu sais, quand tu fais une aventure pour un personnage de niveau 9, 10, puis que finalement, c'est un personnage de niveau 39 qui débarque. C'est ça.
C'est un peu ça.
Ah. Ça a été bref, mais court.
J'aime ça régler les problèmes de manière à coup de marteau. Donc. On va y aller avec notre film de la semaine qui, lui, on va peut-être... J'espère qu'on va pas se battre à coups de marteau pendant que tu cales ton... Attends, je vais attendre que t'aies fini de caler ton amphore avant que tu fasses ta présentation.
Non, mais je suis prêt. OK. Il y a une petite musique d'introduction, là, juste avant de prendre une
gorgée. OK, je vais voir ça, OK? David, présente-nous le film de la semaine. Voyons.
Bonjour, Sébastien. Voilà, donc le jour de la semaine, le jour de la semaine,
dimanche.
On est dimanche, non. Le film de la semaine, il s'agit du cinquième élément. Le synopsis du cinquième élément, c'est que à toutes les 5000 ans, si mon souvenir est bon, un mal ultime apparaît dans l'univers et vole évidemment vers la Terre, parce que ça pourrait pas aller vers une autre planète, non, ça s'en vient vers la Terre.
C'est la seule.
Et des êtres supérieurs, aliens, ont créé un cinquième élément, un guerrier ultime pour détruire ce mal. Mais le mal ultime envoie de ses agents pour détruire le guerrier, pour lui permettre de détruire la Terre. Mais les humains, avec leur recherche génétique, ça, réussissent à reconstruire le cinquième élément. Et... c'est l'histoire donc du cinquième élément qui essaie de trouver les 4 éléments, les 4 pierres élémentaires qui lui permettront de vaincre le mal ultime. Voilà.
Bien dit. Oups, là, j'étais chercher un accessoire pendant que tu faisais ton truc. Parce que j'ai plein de gréments un peu partout autour de moi.
Ah, t'avais pas un Lilou Dallas Multipass?
Et voilà, pour les gens qui écoutent le podcast, là, vous le verrez.
C'est
pas,
malade.
Vous irez sur YouTube,
faut
ok?
Que tu dises.
Genre, j'ai dans ma main un multipass, Lilou Dallas multipass. Exactement comme dans le film. Une réplique du truc, puis ça dit Lilou Dallas, avec le, genre son adresse, d'où est-ce qu'elle vient, toutes les informations, son groupe sanguin, AB+. Ouais.
J'ai receveur un... universel. AB. Oui, plus, ouais, c'est le receveur
AB
universel.
Positif, ouais. Donc, je le remets encore. Vous irez voir sur. Je pense que ça venait dans un loot crate. Une affaire de même, là. J'ai mon
Mais Sébastien, tu peux-tu juste le laisser devant ta caméra parce qu'elle est quand même beaucoup plus agréable à regarder que toi. Mais je dis ça.
Merci. Ça me fait plaisir, moi aussi. En passant, c'est pas mieux ce que j'ai, moi, sur mon écran. Puis je parle pas de moi. Alors, ouais. Fait que pendant que tu faisais ta présentation, je faisais, ah, oh, il est où mon multipass? J'ai oublié de le préparer avant. Mais, avoue qu'on n'est pas capable de dire multipass, hein. Faut qu'on dise multipass à cause d'elle dans le film.
Multipass.
Mais, pour ce qui est du film en tant que tel, j'en ai glissé un mot tantôt rapidement, mais le cinquième élément, c'est un film que je trippais au bout, que j'ai vu quand il est sorti, puis j'adorais ça. Puis là, je l'écoutais mardi soir dernier, puis j'ai trouvé ça un peu difficile à regarder. C'est pas, en fait, le problème principal que j'ai trouvé avec le film, c'est le scénario en lui-même. Un scénario qui est très 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 simple, une histoire très simple, qu'on sait exactement comment elle va s'aligner à partir du début du film. Il n'y a jamais rien dans le film qui nous surprend au niveau de l'histoire. Il n'y a aucun rebondissement, il n'y a pas de twist, il n'y a rien qui... C'est basic au bout. Et c'est ça qui m'a vraiment dérangé. Parce que ça reste que c'est un film de 2 heures et quelques. 2 heures et 6. Et que tu sais exactement ce qui va se passer. Puis quand tu as déjà vu... Ben, il n'y a rien d'assez intense dans cette histoire-là pour te garder. Tout ce qu'il reste, tout ce qui est visuel, tout ce qui reste de l'enrobage du film, à part le scénario lui-même, est excellent et super. Mais le scénario est très, très, très ordinaire. T'sais. Genre Michael Bay. Ouh!
Eh ben, c'est là qu'on n'est pas d'accord, Sébastien. On commence ça tout de suite.
OK! Qu'est-ce que tu vois dans le scénario du cinquième
moi,
élément que moi,
que
j'ai pas vu?
C'est un scénario absolument magnifique qui mérite d'être vu et revu et revu et de remarquer des détails qu'on n'avait pas vus à la première lecture de l'œuvre, si on peut parler de ça. D'habitude, on parle de ça en musique, là, tu sais, la relecture de l'œuvre. Mais non. Écoute, moi, je trouve que c'est une histoire absolument hors du commun, dans la mesure où, nomme-moi d'autres histoires où est-ce qu'il y a un héros clair, Bruce Willis, un méchant clair, Zorg, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, enfin Gary Oldman, qui ne se rencontrent jamais. Ils n'ont aucune idée de l'existence l'un de l'autre. Je trouve ça absolument génial.
Ah, mais c'est parce que Zorg, c'est pas le méchant. Zorg, c'est le henchman, tu sais, c'est genre... C'est... Voyons, c'est dans... Tu sais, dans James Bond, il y a tout le temps des henchmen. Zorg, c'est le henchman de la patente qui veut détruire la
Terre. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que le mal ultime, l'espèce de grosse planète, oui, ça, c'est le méchant ultime. Mais ça prend une personnification du mal. Ça prend un ennemi contre qui on va se battre. Et cette personne-là est personnifiée par Gary Oldman, par Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Donc, c'est lui le méchant. D'ailleurs, comme Corbin Dallas, c'est le héros du film, mais non.
Non.
Tu sais, c'est pas lui qui est important, c'est Lilou Dallas qui est important. Fait que c'est deux henchmen qui se battent entre deux immenses, entre deux pôles, entre le bien ultime puis le mal ultime, tu sais. Fait que c'est qui se bat l'un contre l'autre? C'est Gary Oldman puis Bruce Willis qui ne se rencontrent absolument jamais dans le film.
Puis d'ailleurs, Corbin Dallas, c'est pas lui la cause de la perte, disons, de choses, là, de Zorg. Il meurt pas à cause qu'il se fait tuer par Corbin Dallas. Il meurt parce que d'autres espèces extraterrestres ont mis une bombe là, dans le vaisseau. Fait que même Corbin Dallas a rien à voir.
Non.
C'est deux histoires parallèles en bout de ligne. C'est même pas
mais
le méchant. C'est même pas le méchant de l'histoire.
Mais c'est ça.
C'est deux personnes
mais
qui vivent
ça.
La même histoire.
Mais c'est ça. T'as un super héros, puis t'as un super vilain qui se rencontrent jamais, qui n'ont aucunement conscience que l'autre existe. Mais ça fait pas en sorte que Corbin Dallas n'est pas le héros parce que c'est lui qui motive Lilou à prendre la défense de l'humanité quand elle a un down. Puis c'est Zorg qui aide le mal à venir sur Terre, qui essaye de trouver les quatre pierres pour pas que Lilou réussisse à le faire. Fait que t'as vraiment deux pôles, le bien puis le mal, mais qui sont jamais en contact l'un avec l'autre. Puis ça crée une histoire malgré ça. Je trouve ça absolument génial comme scénario.
T'as le droit. C'est toi. Je te donne la permission. Mais je vois... Ouais, je comprends ce que tu dis. Est-ce que pour moi... Puis oui, je le vois, cette affaire-là. Mais ça me donne pas de raison de... Moi, ça me donne pas de raison de revoir le film. Parce que comme je t'ai dit, c'est un film que j'ai vu, que j'ai adoré. Puis depuis, je l'avais jamais revu d'un bout à l'autre, en continu. Tu sais, je l'avais vu par bout, ou cette affaire. Fait que là, on dirait, c'est ça, de m'asseoir, puis de me rendre compte. Ouais, 2h15 pour ça. Une fois que tu l'as vu. Ça vaut la peine d'être vu une fois, mais il n'y a pas... L'histoire, je sais pas, il n'y a rien dans l'histoire qui m'accroche. Puis les personnages sont comme pas faits pour que tu t'y attaches nécessairement. T'sais, Lilou, le personnage de Lilou est attachant, est drôle. T'sais. Mais Corbin Dallas, c'est comme... C'est une espèce de trou de cul un peu, genre... Tu peux croiser ses bords.
Non, mais tu peux pas ne pas aimer un film dans lequel il y a Gary Oldman.
Ah non, mais je l'aime parce que c'est Gary Oldman. Ça, le personnage, on va y revenir tantôt. Mais je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'attachement.
On a ouvert la porte, là, je veux dire.
Bon, OK. Ben regarde, tu sais, comme Bruce Willis, là.
Ouais.
Le personnage de Corbin Dallas, c'est, dans le fond, ben, c'est le personnage de Bruce Willis que Bruce Willis joue dans tous ses films, là, à peu près. Là. Parce qu'avec ses grands talents d'acteur. Mais sa performance ne me... Ça m'a pas frappé, ça m'a pas... Ben oui, comme François a dit, c'est du Bruce Willis. De Corbin Dallas égale Bruce Willis. Bruce Willis égale Corbin Dallas, tu sais. Mais c'est ça, il n'y a rien de spécial dans ce qu'il fait. Je sais pas ce que tu penses, là, mais...
Je suis d'accord avec toi dans le sens où est-ce que c'est un rôle un peu générique de Bruce Willis. J'adore ce film-là. Est-ce que la performance de Bruce Willis est hallucinante? Non. Est-ce que ça, la performance de Bruce Willis fit dans le film? Oui, absolument.
Ouais, mais ils ont casté Bruce Willis parce qu'ils voulaient Bruce Willis, tu comprends? Le personnage, c'est essentiellement lui. T'sais, lui, c'est un gars qui doit être casté pour jouer ça. Fait qui fait mieux ça? Ben, c'est lui, parce qu'il peut pas faire un autre personnage que ça. Fait que ça fit bien. Ça, je suis d'accord avec toi, ça fit très bien. Mais c'est ça, c'est une performance à la Bruce Willis qui me fait pas aimer. Quand on parle du cas de Gary Oldman, par exemple, et là, ça, c'est toute une autre affaire. Gary Oldman, c'est un acteur absolument incroyable, un acteur caméléon qui disparaît à chaque fois qu'il joue dans un film, on sait plus que c'est lui, qui devient complètement un autre personnage. Et son personnage de Zurg, c'est pour moi la meilleure chose du film. C'est incroyable.
C'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Man... C'est Gordon.
Ouais.
C'est lieutenant Gordon. C'est l'espèce de policier pourri aussi dans Léon, le professionnel.
Léon, ouais.
C'est... Ben, en fait, d'ailleurs, Léon, le professionnel, a été tourné, je pense, en 95, ce film-là.
Ouais.
Bref, 2 ans avant Le Cinquième Élément. Mais deux rôles, là, mais à l'opposé l'un de l'autre.
Ben ouais.
Zorg, ça vient d'où, cet accent-là?
Ah, oh, c'était carré.
De Gary Oldman. C'est hallucinant.
L'accent est
quel
magnifique.
Quel personnage!
C'est un personnage qui est plus grand que tout le reste du film, qui est plus grand que nature, que tu fais comme, mais c'est quoi cette chose qu'il a créée? Puis il fait vivre parfaitement dans tout, pas seulement dans sa voix, mais dans ses tics, ses manières de bouger ses mains, ses manières sa manière de marcher, son espèce de manière qui boite, mais tout est complet dans ce qu'il fait, c'est incroyable, j'adore Gary Oldman.
Ah, non, mais c'est vraiment fantastique. Là. Moi, je trouve vraiment qu'il vole la vedette. Là. C'est hallucinant. Pas... c'est hallucinant. On en parle de semaine en semaine. Là, le faut que le méchant soit à la hauteur un peu du héros, là, tu sais, puis que les acteurs soient à la hauteur l'un de l'autre aussi. Mais là, vraiment, Gary Oldman vole la vedette là-dedans.
Ben,
il est très, très bon.
Je vais te dire de quoi, le méchant est plus fort que le héros. C'est le héros qui est pas à la hauteur du méchant, je trouve. La seule chose que Corbin Dallas a, c'est que dans le fond, ben, tu te rends compte que c'est un soldat des forces spéciales pis qui est vraiment hot, là. Le moment qui... c'est... en fait, c'est quand il faut qu'il se batte, que tout à coup... ah, ok, il est cool comme héros. Mais tout le reste du temps, là... je trouve que les moments que Ruby... voyons comment il s'appelle...
Ruby Rod.
Ruby Rod, il parle de l'interview, puis il donne le micro, puis il fait comme... puis il dit une affaire. Je trouve que ça représente... c'est les moments qui représentent le mieux le personnage qui est Corbin Dallas.
C'est hallucinant, ces passes-là.
Tu sais, ça le représente tellement bien, là.
Mais... ah oui, non, mais ça... parce que ça, vois-tu, ça fait partie d'une des grandes forces du scénario. Je trouve que ça fait partie de... en une scène absolument hallucinante, tu polarises le personnage, tu sais, par rapport à Ruby Rod qui est comme over the top, là. Puis là, t'arrives avec Corbin Dallas qui est un pecno essentiellement, là, tu sais, qu'il y a pas de, non mais tu sais, il y a pas de personnalité ce gars-là, là. Puis là, t'as Ruby Rod qui arrive puis il met le micro puis là,
yes.
Tu sais, la clash est tellement gros, ça fait partie des choses que justement je trouve absolument magnifique du scénario.
Ouais, ben, je sais pas, mais bon, ok, t'as le droit. Ben, regarde, on parle de Ruby Rod, là. Chris Tucker. Écoute, j'ai le goût de le frapper. Il me tape tellement, c'est nerf. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, encore une fois, c'est que c'est ça qui est dans tous les films, je veux dire, de tous les films qu'il fait. Je veux dire, le seul autre film que j'ai réussi à me souvenir avec lui, c'est Rush Hour. Il me tape, c'est nerf aussi. Il est hystérique, c'est ça, il joue l'hystérique, il peut juste jouer l'hystérique, il fait l'hystérique. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il a été casté pour ça exactement, parce que c'est ça qu'il avait besoin. T'sais. Mais
parce que je pense que tu prends les affaires en envers, Sébastien. Chris Tucker a fait le cinquième élément avant de faire Rush Hour.
Je sais, mais c'est
quand même. Je pense qu'il a fait Rush Hour parce que il était capable de faire un personnage hystérique dans le cinquième élément, et non pas l'inverse. Non. Donc à l'époque du cinquième élément, il faut se replacer. Il n'a pas été typecasté. C'est un acteur qui a réussi à faire une job hallucinante de personnage over the top.
Non, il a été typecasté. C'est un humoriste qui a été typecasté pour ses performances over the top qu'il faisait en faisant de l'humour. C'est ça qu'il faisait déjà avant. Ils l'ont engagé pour qu'il fasse ça dans ce film-là. Puis après ça, dans Rush Hour, ils l'ont engagé pour qu'il fasse la même chose. C'est un peu... C'est du typecast. Comme souvent, on va voir dans les films américains, l'utilisation des humoristes qui deviennent acteurs, c'est un peu ça. C'est un type de personnages qui sont faits pour jouer, là, parce qu'ils font ça dans leur humour, puis ils leur font faire ça dans les films. Puis c'est exactement ça. Mais cette personnage-là, cette affaire-là, me finit par me taper ses nerfs. Là. Mais je dis pas qu'il est mauvais. C'est bon, mais il me tape sa rotule, à un moment donné. Surtout qu'il hurle, man. C'est comme... ah!
Ben oui, mais c'est hallucinant, c'est hot. Ben écoute, si tu l'aimes pas, me dire comme tu me dis, t'as le droit de penser ça.
Mais tu sais, dans le fond, c'est pas le personnage que j'aime pas, c'est Chris Tucker.
Excuse-moi, répète ça, j'ai pas entendu.
Mais c'est pas le personnage que j'aime pas, dans le fond, c'est Chris Tucker.
Chris Tucker. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que je trouve merveilleux dans ce scénario-là, dans la façon dont les personnages ont été pensés, c'est justement que chacun des personnages est vraiment canté dans son style. C'est vraiment clair, puis on se demande pas c'est quoi la personnalité du personnage ou c'est quoi ses désirs. Non, c'est très clair. Chris Tucker, il veut faire un bon show, puis il fait un super show. Puis d'ailleurs, quand il est hors d'onde, il est vraiment moins hystérique. Sauf quand ça commence à péter partout, là, il se met à crier, là. Mais il est beaucoup moins hystérique quand il est hors d'onde. Puis justement, quand il confronte Corbin Dallas, puis qu'il fait « Yes ». Ben justement, encore une fois, ben comme je le disais tantôt, là, ça polarise les deux personnages. Après ça, on a Zorg qui est méchant, mais un peu un comic relief aussi en même temps.
Ouais.
Puis l'humour passe super bien là-dedans. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse teinte d'humour dans ce film-là. que j'adore, en tout cas, bref. Voilà.
Encore une fois, pour moi, c'est plus une question de... Oui, les personnages sont très intéressants. Pour moi, c'est l'histoire, tu sais, j'aime... Je sais pas, j'aime pas ça quand c'est si droit, tu sais, si linéaire, que dès le début du film, tu sais exactement qu'est-ce qui va arriver. On est très, très... Tu sais, c'est très clair, là. Puis pour vrai, ça se passe... Tu sais, il essaie de mettre une twist en... tu sais, oh ben, les éléments sont pas dans la valise, finalement, puis oh, ils sont à l'intérieur de la chanteuse. Tu sais, c'est l'espèce de truc qui essaie de nous surprendre, mais tu fais comme, ok, c'est pas tant que ça. Ouais. Il y a pas nécessairement de moment où tu sens que vraiment les héros sont en danger d'échouer leur mission. Oui, c'est serré, oui, le truc, mais il y a comme... Il y a rien qui fait que ça va pas marcher. Le moment qui fait qu'ils vont plus pas réussir, là, c'est qu'ils comprennent pas comment ça marche. Comment ils fonctionnent, là.
C'est vraiment le plus gros danger. Comment ouvrir les pierres à la fin.
Ouais, c'est leur plus gros danger qu'ils vivent de toute la patente. De toute l'histoire, à ne pas réussir la mission, c'est qu'ils savent pas ouvrir les pierres. Parce que pour le reste, même si ce qui arrive sur le bateau, pis ça, hein, Corbin Dallas, c'est comme... Arnold. Non, mais tu sais, il tue tout, là, comme... Il me fait penser...
La scène du centre de commandement, là.
Ouais,
on a des otages, envoyez quelqu'un pour négocier.
Il est tellement overpowered. Il est tellement OP.
C'est comme
s'il y a
un niveau 39 qui arrive dans une aventure qu'on tue pour un niveau 9, tu sais.
Non, mais il est tellement OP, Corbin Dallas, que tu sens jamais d'inquiétude pour eux autres. Parce que, anyway, il va dealer avec. Le gars, il réussit, tu sais, ce qu'il fait avec la police à New York, c'est comme, man, il le retrouve même pas. Il fait tout, tu sais, il règle tout comme ça. Fait que c'est juste ça aussi, peut-être, ce que je trouve qui manque, c'est ce sentiment de danger-là, qui n'est pas réel. C'est plus une affaire de temps. C'est comme, ouh, est-ce qu'ils vont avoir le temps pour le faire? Puis en passant, ouais. Ils s'en passent des affaires en 48 heures.
Excuse-moi, parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu de lag puis qu'on ouais. parle en même temps. Mais bref, je comprends ton désir d'avoir un cliffhanger, là, tu sais, quelque chose qui fait comme, oh my god, est-ce qu'ils vont réussir? Mais moi, une autre chose que je trouve intéressante dans ce film-là, avant qu'on finisse de parler des deux autres acteurs, ce que je trouve intéressant de la relecture, de revisiter ce film-là, pas revisiter parce que ça veut dire un remake, mais de revoir ce film-là, c'est les détails, conscientiser des choses du film. Mmh. Exemple, j'ai parlé du fait que Corbin Dallas et Zorg, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, se rencontrent jamais. Ils n'ont aucunement conscience de l'existence de l'autre. À part le fait que Dallas conduit pour une compagnie de taxi qui appartient à Zorg. Ouais. Puis quand Zorg dit de virer 1 million d'employés, Corbin Dallas reçoit la mise à pied. T'sais. Mais c'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Puis encore là, ils ne rentrent pas directement ensemble là, parce qu'il y a juste le nom de la corporation. Bref, toujours est-il. Il y a d'autres aspects dans ce film-là qui sont intéressants de regarder ou dont il est intéressant de prendre conscience. Le chiffre 5 revient extrêmement souvent. Le cinquième élément. Combien de points il reste sur le permis de Corbin Dallas?
5.
5 points. Emmanuel Zorg, là, la bombe qu'il met sur le bateau, il réussit à l'arrêter. Il reste combien de temps?
5 secondes.
Les autres qui se battent pour l'honneur, là, ils font exploser une bombe qui explose dans combien de temps? 5 secondes. Le chiffre 5 revient extrêmement souvent. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Ça vaut la peine de lire sur le film aussi. Le gars qui s'appelle... Le policier qui est chez McDo, qui commande la bouffe, c'est un acteur américain qui joue dans des sitcoms ou une affaire de même. Là. C'est quoi son nom? Mac Donald.
Bon. Et en plus, il attend au McDo. Ouais, mais... Tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose qui va rendre un film bon. Parce que j'ai pas, je veux pas, moi je veux voir un film, j'ai pas besoin, si j'ai besoin de faire des recherches pour trouver des trucs.
Mais non, mais ce que je, non, tu comprends vraiment ce que je dis. Ça vaut la peine de faire des recherches sur le
oui,
film.
Oui, ça vaut la
je
peine.
Dis pas que, je dis pas qu'il faut faire les recherches pour apprécier le film.
Non,
mais
je comprends.
Ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de réécouter le film pour voir des détails, comme, mettons, la réminiscence du chiffre 5. Ça,
ouais,
c'est intéressant.
Ouais. Je vois, je comprends ce que tu veux dire. Mais bon. Même si je
te fais on a le droit de ne pas avoir la même opinion sur le film.
J'adore ça, j'ai du fun en ce moment. On va parler un peu de Mila, Mila Jovovich qui joue Lilou. Elle, Lilou.
Lilou Dallas Multipass. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Par mon... Ben, en fait, j'ai trouvé que c'est quand même... Moi, je l'ai vraiment aimé. C'est pas un rôle simple à jouer. C'est pas... tu sais... Elle fait bien l'espèce de côté que... Man, elle est complètement... Freak, là. Mais pas freak, mais weird. Puis un peu déconnectée de tout. C'est normal, là, tu sais, pour ce qu'elle est, là. Mais elle fait tellement bien. Elle a une espèce d'innocence chez elle qui est vraiment attachante. Puis son, j'aime aussi quand elle a tout son côté où elle découvre un peu l'humanité, c'est quoi. Puis toute sa réticence, comme ça vaut-il la peine de sauver. Je pense qu'elle fait bien ça. J'ai bien aimé la performance de Mila Jovovich dans un rôle que je trouve qui est pas nécessairement simple. En plus que t'as pas ta langue, tu peux pas parler. Là. Elle parle, mais on comprend rien à ce qu'elle dit. Là. Fait que puis même le côté qu'elle a de la misère à parler, puis qu'elle parle, elle réussit très bien à rendre ça. Toi, qu'est-ce que tu penses?
Je trouve que c'est une performance inégale. Je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, comme, mettons, tu parles de l'aspect de la langue, tout ça. Mais j'avoue que moi, la scène, mettons, où est-ce qu'elle dit « Ouais, mais pourquoi sauver l'humanité? Tu sais, il y a tellement de guerres, puis de haine, puis de... » Ça, j'avoue que j'y ai pas cru pantoute. Je trouve ça vraiment... Ça a pas passé de... Mm. Tu sais, c'était... Mila Jovovich, c'était une mannequin qui a été castée, pardon, pour ce film-là. Tu sais, c'était pas une actrice. Fait que je trouve que le jeu d'acteur est pas génial. Sauf là où est-ce que, comme tu le dis, quand il y a... quand l'acting reflète le miroir de la réalité, justement, où est-ce que la fille, elle parle plus ou moins bien anglais, ben, quand le personnage parle plus ou moins bien anglais, ben, ça fonctionne très bien. Puis quand elle parle une langue que personne comprend, qui est la langue céleste ou je sais pas quoi, ben, là, elle peut utiliser l'accent qu'elle veut, puis c'est pas grave, ça fait comme... ça fait exotique, tu sais, mais c'est parce que l'actrice n'est pas capable de parler anglais comme faut, en fait.
Mais
fait que,
aussi,
c'est ça, je trouve ça inégal.
La démarche, la manière... Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. La manière qu'elle marche. Qu'elle fait, elle a une espèce de d'innocence qui fait de bien. Puis je comprends ce que tu dis aussi sur la scène. Je suis d'accord avec... C'est ce que je disais, ça s'applique peut-être un peu plus au personnage qu'à l'actrice. Je suis d'accord que c'est un peu... Mais en même temps, je pense que... tu peux le voir qu'elle garde quand même ce côté-là d'innocence puis de comme déconnexion de la réalité que le personnage de Lilou a. Fait que tu peux peut-être presque l'excuser par là, mais ouais, ça je comprends aussi. Après ça, je voulais parler de Bilbo.
Ian Holm.
Qui est déjà vieux, même, dans ce film-là. Je suis comme, shit!
Ouais.
Il était ancien dans le Hobbit. On le voit-tu dans le Hobbit? Vieux? On voit-tu Ian Holm dans le Hobbit?
Ou juste
dans
le 50?
Écoute, j'ai juste vu le premier, parce que j'ai été découragé, fait que j'ai pas écouté les deux autres. Mais...
Ah, man, il est né en 1931.
Wow! Il est quand même pas jeune, le monsieur, 85
ans. Il a 85 ans, là.
Ouais,
wow!
Hey, là, je suis capable de faire des maths, là. Wouhou! C'est revenu. Mais, non, mais moi, je l'ai trouvé très bon. Je l'adore. C'est un personnage hyper sympathique, là. Du film, là.
Moi, c'est son nom. Le nom de son personnage que j'adore.
Vito Cornelius.
Vito Cornelius.
Ouais.
Mais avoue que ça fait Vito Corleone.
Peut-être c'est ça qu'il voulait. Dans le fond, c'est le parrain de la mafia, le gars. Mais, ah non, mais il est super bon. Il est très, très, très drôle. Je trouve que c'est un des personnages les plus drôles de tout le film. Dans le peu qu'il fait.
Ouais. Son sidekick aussi, il est quand même assez comique, je trouve, son David. Là. Ouais. Il est comme tout le temps un peu dépassé par les événements. Ouais.
Surtout quand il se fait passer pour Corbin Dallas, puis que Corbin Dallas, il se pointe. Là. Mais il est comme... il rush au bout. Là. Mais il y a un autre acteur, j'ai pas mis dans la liste d'acteurs, là. C'est le gars qui joue le président des États-Unis. Là. C'est quoi son nom?
Le Black...
Il faut vraiment le mentionner. Parce
Tommy
que...
Tiny Lister.
Il est vraiment pourri! Mais complètement à chier, là. C'est vraiment le pire acteur de tout le film. C'est une performance de marde. Et dites-vous, là, que ce qu'on voit dans le film, c'est probablement les... C'est... Techniquement, c'est les meilleures prises qu'il a faites. Imaginez les autres, là. Oh! Ah, il est poche, là, come on.
Ben, il est pas great, là, mais...
T'as l'impression
que... Moi, je trouve ça juste drôle, le bout où est-ce qu'il y a un agent de Zorg qui est là avec la coquerelle, là.
Ouais.
Puis là, il enlève son soulier, puis il tape sa table, tu sais. Man, la coquerelle est grosse comme un 2 piastres, tu sais. C'est pas subtil, pantoute, là.
Ah non, ça, c'est dans les belles scènes drôles, là. Mais on dirait que le gars, il a jamais appris ses textes avant le film, puis qu'il lisait des cartons tout le long du film. C'est vraiment à chier. Excusez, mais... je m'excuse pas pour lui, il nous écoute pas anyway, c'est pas grave. Mais... puis je serais étonné que son fan club, genre, il y a un fan club puis qu'il nous écoute puis qu'on arrête d'avoir plein d'auditeurs à cause de ça. Mais il est pas bon. Fait que c'était mon commentaire, c'était mon éditorial de la journée. les effets, là, j'étais surpris. Écoute, on a écouté Minority Report la semaine dernière. Qui est en 2001. C'était vraiment moins bon, le CGI, que celui dans le cinquième élément qui date de 1980. Ben, avant même, 87, là.
2002, Minority Report, c'est 5 ans avant le cinquième élément.
J'ai trouvé que...
La réminiscence du chiffre 5. Oh,
c'est comme 4 a.m. in the morning, ça.
Ouais, c'est ça.
Si vous voulez comprendre de quoi on parle, vous irez voir le TED Talk. Vous irez voir, puis faites 4 a.m. in the morning, vous allez comprendre. Ah, François, il nous dit sur le chat que l'acteur qui fait le président, c'est un lutteur. Et effectivement, ça fit avec la patente. C'est compétent, c'est pas de parler.
Pas surpris.
Non, moi non plus. 3-4 commotions, ça fait ça. Mais on salue tous les lutteurs qui nous écoutent. Mais ouais, là, les effets sont très bien. Ils sont beaux. Ça paraît pas trop. Mais
non,
ce
non.
qui est...
C'est hallucinant pour l'époque, je trouve.
Mais moi, ce que je trouve vraiment débile de ce film-là, c'est tout le reste, tout le visuel, les costumes, là, les décors. C'est pour ça que t'écoutes le film. C'est pour voir ça. C'est... Toutes les extraterrestres, les affaires, c'est hallucinant. Visuellement.
Es-tu en train de donner raison à George Lucas que tout ce que ça prend, c'est des belles images puis du beau son?
Non, je suis pas en train de donner raison. C'est toi qui es en train de donner raison, parce que toi, t'as vraiment trouvé que le film était bon. Mais...
non, mais moi, je trouve qu'il y a de quoi dans l'histoire.
Ouais, non, mais écoute, comme je dis pas qu'il est bon. Je donne pas raison à George Lucas. Parce que je dis pas que le film est bon. Ce que je dis, ce qu'il y a de bon dans le film, c'est ça. Et pour vrai, ça vaut la... Si vous avez jamais vu Cinquième élément, regardez-le, ne serait-ce que pour ça. Puis tantôt, je vais donner ma note, puis tu vas voir... Ma note, elle a deux parties à ma note. Puis je vais m'expliquer, là. Mais, ouais, visuellement, c'est débile. Ça vaut la peine d'être vu.
Je vais en rajouter un peu, justement, sur les effets visuels. Quand je disais tantôt que ça vaut la peine de revoir ce film-là, parce que on peut noter des détails, il y en a un paquet quand on parle du visuel. Tant qu'on est sur Terre, on est dans les tons d'orange. Évidemment, les cheveux de Lilou Dallas sont orange. Les vêtements de Corbin Dallas, c'est toujours une espèce de t-shirt orange. Les murs sont jaunes, les murs sont bruns. On est vraiment dans les tons de orangé, un peu plus clair, un peu plus foncé, mais on est vraiment là-dedans. Puis quand on sort de la Terre, on s'en va vers Floston Paradise. Mm-hmm. Là, on se retrouve dans les teintes de bleu.
Ouais.
La planète est bleue, la diva est bleue, les murs des chambres sont bleus. Tout est bleu partout, tu sais. Il y a vraiment, on se sent dans un autre univers simplement par la couleur. Je trouve ça absolument magnifique. Chacun des personnages principaux aussi, ben, c'est-à-dire les deux personnages principaux, c'est-à-dire Corbin Dallas et Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, sont représentés par des formes. T'as-tu remarqué aussi? Tout ce qui est autour de Zorg est tout le temps rond.
Okay.
Tout est en rond autour de lui. Les fusils qu'il présente sont ronds. La fenêtre de son bureau est ronde. Quand son masque est rond, c'est juste des courbes autour de lui.
Okay.
Corbin Dallas, tout est carré. Il est dans un appartement carré, un cube, avec son frigo qui est carré. Les lettres sont carrées. Tout autour de lui est carré. La fenêtre est carrée. Ce qui, encore une fois, sépare les deux extrêmes de ces personnages-là. Personnage de Corbin Dallas qui est carré et le personnage de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg qui est rond. Je trouve ça vraiment intéressant de revoir ces détails-là quand on regarde un film. T'sais.
Ouais, mais c'est ça.
Parce que même visuellement, on en voit.
Mais c'est ça. Mais pour moi, la plupart des choses sont dans le visuel. La force, les détails sont là. Ils sont pas nécessairement dans ce qui se passe dans l'histoire, mais sont là dans ce qui se passe à l'écran. Puis, ce que je trouve aussi, c'est ça, les merveilles des costumes, ça. Ben, il y a une raison. C'est Jean-Paul Gaultier qui a designé tous les costumes. Fait que c'est quand même pas. Luc Besson a quand même pas trouvé un deux de pique pour designer ça. Puis les costumes sont incroyables. Il y a une affaire que je voulais te parler, mais si tu veux parler un peu des costumes encore, mais il y a une affaire que je veux parler après.
Ouais, ben en fait, non, c'est juste pour en rajouter sur l'aspect visuel. Ben, tu dis que les costumes sont designés par Luc Besson.
Jean-Paul Gaultier. Le film est réalisé par Jean-Paul Gaultier et les costumes sont faits par Luc Besson.
Voilà. Mais là, où est-ce que je voulais en venir? C'est que l'univers a été designé par un BDiste français, dont le nom m'échappe, là. Si on va sur IMDB, on va le retrouver, c'est sûr, là. Mais c'est un BDiste qui a dessiné. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ce film-là, dans l'aspect visuel. Il y a beaucoup de cartoons. Il y a beaucoup d'aspects plus grands que nature, ou des affaires flyées, des grenades avec des pics, puis des... l'espèce de casque du gars qui attend Corbin Dallas à sa porte. Mais que le casque, c'est un print-out de la vue.
C'est
de
vraiment
ça,
drôle.
De son judas, tu sais.
Lui, il est comme tout content, là. Il est fier de lui, là, au bout, là. Ah non, c'est malade. Mais...
C'est hallucinant.
Il y a une chose que je voulais parler. On fait souvent des jokes sur les boobs. Puis, je me posais la question en regardant ce film-là, où quand même, les femmes dans ce film-là sont très, très, très... sont un objet sexuel, vraiment, là, énormément, là. Je veux dire, il n'y a pas de... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elles sont hyper sexualisées, toutes les femmes qu'on voit. Puis, toutes les scènes où on voyait les seins à Mila Jovovich, je me demandais, c'était-tu vraiment nécessaire? Est-ce que je suis en train d'écouter Game of Thrones, genre, tu sais, où t'as l'impression, où HBO a comme, on dirait qu'ils ont un quota de tatons la minute, tu sais. Si tu fais une émission HBO, si on voit moins que deux tatons aux 5 minutes, ça serait bizarre de voir un taton.
Que si on met, mettons, que
une paire de, si tu vois pas une paire de seins aux 5 minutes, ton émission, on la fait pas, tu sais. On paye pas, on la produit pas. J'ai quasiment eu l'impression qu'il y avait ça dans les scènes où on la voyait nue, Mila Jovovich. Puis, je trouvais ça intéressant. Tu sais, je trouvais ça drôle. C'est quand même fin des années 90. Il y a un certain portrait des années 80 de la femme dans ce film-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi?
Ben, c'est juste que je trouve que elle n'a pas de seins.
Oui, mais
fait qu'on y voit ses pas de seins, tu sais. Je...
Ouais, mais c'est ça. Mais je pense. Tu sais, c'est la question de nudité gratuite. Parce que moi, j'ai rien contre la nudité. Mais où ça te dérange, je trouve que des fois, ça sort d'un film. Puis c'est même... Je refais encore le parallèle à Game of Thrones, parce que je l'écoutais un peu. C'est que des fois, ça a tellement pas rapport. Tu sais, ça coupe du reste. Que tu fais... Hein? Pourquoi? Tu sais, pourquoi tu me montres des boules? Tu sais, si je voulais voir des boules, j'irais regarder, tu sais. Là, je me sens tellement avec le mot boule. Ça, j'essaie de dire de quoi de, d'utile et profond, puis là, je mets boule dedans. Tu sais, je réussis pas à garder ça. Mais tu sais, si je
veux
ça, si je veux voir des seins, m'aller regarder des seins, si tu m'en montres dans un film, dans un affaire, il faut que ça ait rapport. Tu sais. La nudité, c'est correct, c'est utile. Ça,
mais écoute, rafraîchis-moi la mémoire, là, parce que manifestement, on n'a pas écouté le même film tout le temps. Il y a la scène où est-ce qu'elle se fait régénérer.
Ouais.
Puis là, il l'ouvre, puis il pense voir un gars, puis oh, finalement, c'est un, c'est une fille.
Mm-hmm.
C'est quoi les ben, autres scènes?
Là, on la revoit encore pendant un petit bout de temps, comme ça. Puis après ça, je pense que la scène qui m'a surtout dérangé, c'est la scène qu'elle change chez le prêtre. Ou genre, il ben, monte les...
Finalement, il voit juste le dos.
Non, elle se revire pas. Elle est de face. Il y a une scène où elle se déshabille. On la voit, là. Elle lève, là, le prêtre, il se retourne, tu sais. Mais on la voit super bien, là. Elle est de face, puis tu fais comme... Okay, celle-là, c'est, je pense que c'est celle-là qui m'a dérangé. Ça fait comme... Mais ça sert à rien. T'as pas besoin de... C'est comme... Wouhou! Je te montre mes boules. Puis, je
ben,
trouvais
que j'ai pas regardé mon écran, c'était un moment-là.
Mais je trouvais qu'avec le portrait, c'est ça, tu sais, les close-ups, tu sais, les prises de vue des hôtesses, là, qui étaient faites de comme.
Ah ouais.
Entre leurs jambes, avec leur jupe, qui est à ras, là. Tu sais, boucher les oreilles à vos enfants, là, à ras la touffe, là. Mais, tu sais, en même temps que. Je trouvais que quand tu regardes l'addition, tu sais, t'additionnes tout ça, tu fais comme. Ouais! C'était un peu drôle, tu sais. C'était pas utile. En tout cas, c'était mon commentaire féministe de la journée.
D'ailleurs, as-tu écouté le film avec ta blonde?
Pas tant que ça, non. Elle faisait okay, d'autres choses. Bon. Pourquoi?
Non, juste pour savoir.
Tu pensais que ça avait influencé? Non, mais j'ai...
La question se pose.
Non, mais comme n'importe quel, je pense que, tu sais, on aime tous des seins, mais... J'aime ça quand.
Parce que moi,
j'aime ça quand mes seins sont utiles.
Non, mais c'est juste que. Moi, mettons, l'affaire des hôtesses. Je comprends que, tu sais, mettons, c'est une caricature de ce que ça pourrait devenir, tu sais, si on laisse l'espèce de stéréotype aller.
Oui, ça, je suis d'accord.
De quoi ça aurait de l'air. Fait que ça, les hôtesses, ça ne m'a pas dérangé. J'avoue que la première fois que j'ai vu Lilou, tu sais, quand le tube ouvre, puis finalement, il se rend compte que c'est une fille, là. Ça, j'avoue que la première fois au cinéma, j'ai fait comme, oh boy, ça m'a surpris.
Ça, c'est la scène que je trouve ça le plus normal. Mais tu sais, t'es pas obligé de la montrer se déshabiller, tu comprends? Ça, c'est normal.
Mais c'est pour ça que je te dis, moi, la scène ça fait plusieurs fois, je l'écoute le film, puis la scène chez le prêtre, je me rappelle pas qu'on la voit.
Je me rappelle
la voir de dos.
Non, on la voit. C'est pour ça que ce shot-là, j'ai fait comme... Wow! C'est vraiment ça qui m'a frappé. Il y a une scène chez le prêtre. Je pense que c'est chez le prêtre. Où c'est... Ouais.
Ben, elle change, mais c'est ça. Mais moi, je me rappelle l'avoir vue de dos. Pas
celle où on la voit de dos, c'est quand elle arrive chez Corbin puis qu'elle enlève son chandail pour se sécher. Parce que la douche est partie. Je pense que c'est celle-là où on la voit se tourner
oh,
le dos.
Ah, ouais.
C'est le prêtre, là, ouais. On la voit genre complètement flambant, là. Flambette. Ouais. Mais bref, on va pas passer le restant de la journée à parler de ça.
Essaye pas de repousser le moment, là.
L'inévitable. On va y aller pour la question du geek.
Sébastien.
Oui.
J'ai hésité longtemps cette semaine pour la question du geek. Je me demandais si j'allais pas te demander quelle forme représente chacun des deux personnages principaux entre Corbin Dallas et Zorg, donc le carré puis le cercle. Je me suis demandé si j'allais pas te demander Mila Jovovich a réussi à gagner l'audition pour ce rôle-là contre combien de filles? La réponse est 3000. Ouais, quand même. Mais finalement, la question du geek que j'ai pour toi, qui sera pointée d'ailleurs, ça dit-tu pointée? Qui sera notée, voilà. Selon notre système standard, donc un indice, un point, te coûte un point, c'est-à-dire.
La réponse est-tu sur mon multipass?
Non.
Oh.
Suite à la parution du film Le Cinquième Élément, Luc Besson s'est marié avec Mila Jovovich.
Ah ben, tabarouette.
Le petit coquin. Mais pour se marier à Mila Jovovich, il a dû se divorcer de son ancienne femme. Qui est son ancienne femme? Cherche pas nécessairement un nom précis.
Pas un nom précis.
Non.
Sa femme, c'était pas une personne précise?
Tu comprendrais. Si tu savais d'emblée la réponse, tu sais où est-ce que tu saurais où est-ce que je m'en vais. Mais disons que c'est un indice gratuit. Je cherche pas un nom précis.
Son ancienne femme, c'était le cinéma. C'est un artiste.
Veux-tu un indice pour un point?
Oui!
C'est un personnage du film.
Il s'est marié avec Lilou?
Non, mais après ça, il s'est marié avec Lilou.
Mais il était marié avec un personnage du film.
Ouais. Pour soi, je cherche pas nécessairement le nom de sa femme, le nom du personnage.
Le nom
ça
du
va être correct.
Personnage. Mais la seule fille, c'est Lilou. Un autre indice.
Il n'y a pas juste Lilou comme personnage féminin dans le film. Il y en a une autre aussi qui est importante.
La chanteuse, là, la cantatrice. Là.
Bravo, Sébastien.
Il était marié avec la cantatrice.
Ouais. Ouais. En fait, la scène, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a une chanteuse qui a été engagée pour enregistrer la musique. Une vraie chanteuse classique, là, pour enregistrer l'air. Ouais. Puis d'ailleurs, enregistrer note par note l'espèce de pass weird. Mm-hmm. Et puis, finalement, ils sont arrivés le jour du tournage, puis la chanteuse, elle pouvait pas parce que, je sais pas trop, elle était malade ou elle avait une grippe, je sais pas quoi. Bref, elle a pas pu être là. Fait que là, Luc Besson, il s'est dit, ah merde, ça me prend une fille dans le costume, tu sais, fait que, chérie, vas-y donc.
Ah ben, tabarouette. Et puis après fait ça...
Finalement, la cantatrice, c'était la femme de Luc Besson au moment du tournage du film.
Jusqu'à temps que après... Luc Besson, il voit les boobs à Mila Jovovich, c'est ça?
Et voilà. Ah, et voilà. Gros cochon.
Ça explique plein des choses.
Hey! Voilà, donc 8 sur 10 cette semaine pour toi.
Merci. Ben, je pense que j'ai le droit de me mettre un petit... Bon, est-ce que t'es prêt maintenant?
Oui.
Pour les extraits! Bon. Allez écouter les vidéos sur YouTube, tout le monde. Ça vaut la peine pour voir les danses à David. Cette semaine, il y a beaucoup d'extraits. Il y en a 10. Et je dirais que pour la plupart, ça va être des bruits. Mais on va commencer par un qui n'est pas un bruit, qui est très court, mais qui est une très belle réplique du scientifique au début de l'archéologue. OK? On va écouter ça.
Are you German?
Are you German? Ça, c'est quand il parle aux espèces d'extraterrestres, là. Qui viennent de la planète, je sais pas, Vespa. Mais j'oublie, c'est quoi leur planète déjà? Mais ouais, je trouve belle.
C'est un autre nom compliqué, nom générique compliqué numéro 375. Ah, are you German?
C'est pas pire. Les autres extraits après, on va commencer un peu la collection de rires. Parce que là, ça fait 2 semaines que tu me demandes, est-ce que t'as mis un rire bizarre? Ben oui. Est-ce que t'as mis un rire bizarre?
Il y a rire numéro... Je viens de le lire dans les show notes. Rire numéro 1, rire numéro 2, rire numéro 3, rire numéro 4.
Il y a 4 rires, OK? Cette semaine, il y a 4 rires. Je me suis dit, je vais me rattraper pour les dernières semaines que j'en ai pas mis. J'en ai profité. Et le premier rire que j'ai aimé, le voici.
C'est le rire du gars. Justement, on parlait du gars qui a un chapeau qui reflète donc la vision du Judas de l'appartement de Corbin Dallas. Avec l'espèce de move, là, il a tellement l'air drogué, là. Oh, ouais, c'est... ça me fait penser un peu au rire du gars weird dans Escape from New York.
Ouais, ouais. Le gars avec les cheveux blonds bien pâles.
C'est très ouais, c'est drôle. Ça.
Maintenant, oh ouais, yeah, sure. Écoute, je suis certain que c'est ce qu'il dit, qui dit la vérité. OK, le prochain qu'on va entendre.
I'd like to take a few pictures. The archives.
Oui. C'est quand, justement, Lilou, il sort, tu sais, il va dans la machine que c'est une femme, puis qu'elle est à poil. Puis t'as le général qui fait comme, « Oh, je vais prendre une couple de photos, parce que pour les archives, hein? » Nah, vieux cochon. Mais il y a ça aussi, il y a plein de jokes de genre... de vieux mononcle cochon dans ce film-là. Là.
Mais c'est le fun, parce que je trouve que, malgré le fait que ce soit un film relativement sérieux, tu sais, il y a beaucoup de jokes qui passent, puis ça fonctionne très bien. Tu sais, quand... ben, on en parlait tantôt, mais tu sais, Emmanuel Zorg, là, puis le petit bouton rouge sur le bord du gun, puis... quand il est en train de s'étouffer, puis là, il pèse sur plein de boutons, puis finalement, il y a une espèce d'animal avec un... weird, une grosse trompe.
Un aspirateur. On dirait vraiment un aspirateur. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait avec la grosse trompe?
Mais ça, il y a comme plein de petites jokes qui fonctionnent vraiment bien. Non, c'est hallucinant.
C'est la seule affaire, je me disais, tout ça, j'espère que dans 300 ans, les femmes seront pas tous des objets sexuels, puis les hommes des vieux mononcles cochons. C'est un peu ça quand tu regardes le film. C'est que, ah! La société a pas évolué, ben gros. Le prochain rire. Parce que oui, c'est le prochain rire. Le voilà. C'est Lilou qui rit. Il y a presque un peu de Bob l'éponge dans son rire. Presque.
À un moment donné, il va falloir que j'enregistre le rire de ma fille, tu sais. Parce qu'elle va bientôt avoir 5 mois, puis tu sais, elle rit pas. Bien. Parce que, tu sais, elle est comme pas habituée de rire. Fait qu'elle fait.
Tant qu'elle fait pas.
Ça me fait penser à ça. Il y a juste pas la saccade. Voyons, la saccade. Mais ça fait vraiment le.
Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont tellement courts que je pourrais faire ça. Ah non, ça repart pas. J'essaie de le mettre en boucle, mais mon soundboard ne marche pas de même. Le prochain, c'est ouh. OK? C'est ouh. Ouh, je sais pas. C'est un ouh quelconque. C'est un autre bruit. On va écouter le bruit.
Ouh. Tu nous as pris des sons weird cette semaine.
Je sais, j'ai eu ben du fun. Ah, c'est vrai que le rire de Lilou, ça fait une sonnerie de téléphone. Ça, c'est Ruby Rod, quand il fait toute son affaire au début du bateau, là, puis je pense qu'il spot une
ah, ouais,
les bon. Les hôtesses, là, puis il fait comme, ouh, attends, on va le réécouter, là.
Ouh!
Ça continue! Approchez! C'est une grosse mouche. OK? Il y a une grosse mouche dans le film. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont pas vu qu'il y avait une mouche à côté de la du perchiste, puis ils ont continué à tourner. C'est beau, hein?
J'adore. C'est ton préambule, tu sais. Puis là, finalement, il y a l'extrait. Puis là, j'ai tellement l'image de Ruby Rod qui est là, puis...
Il fait les gestes avec les mains.
De manière un peu efféminée, là, tu sais.
Ouais. Ah, ouais, je te dis, je me suis amusé cette semaine avec les extraits. Un autre rire. Et cette fois-là, c'est Zorg, voyons, qui nous donne son rire.
C'est quand il se rend compte que finalement les pierres sont pas là.
Ouais.
Mais c'est pas une surprise pour l'auditeur que les pierres sont pas
ben
là.
Ben non, on le sait.
Sauf que ça confirme d'une manière absolument magique cette espèce de twist-là, si on veut. Ou est-ce que, tu sais, vraiment, l'acteur, il part d'un rire franc, que enfin j'ai trouvé ce que je veux, puis il s'en va vers un pleur. Puis Gary Oldman réussit à dégrader le truc, là, mais d'une façon absolument parfaite entre les deux pôles. Hallucinant comme rire. Vraiment, ça dénote la grande, grande, grande qualité de l'acteur, je trouve, cette affaire.
Puis ça confirme une autre chose, que notre méchant dans ce film-là est vraiment tweet. Il aurait pu regarder dans la boîte avant de l'amener.
Bien avant.
Ben bon. L'histoire n'aurait pas marché sinon. Le prochain... Wow! Pourquoi je dis... C'est quoi ça? Des fois, je sais pas. Je me souviens plus que j'ai mis. Fait que c'est une surprise pour moi aussi.
J'adore ça, cette scène-là.
Je m'excuse à tout le monde que je viens de leur arracher les oreilles. Une chance, j'ai baissé le son un peu.
J'adore qu'il prenne son souffle dans le milieu de l'affaire.
C'est hallucinant. Ça, c'est beau. Encore une fois. Le prochain, c'est des négociations. Ah oui, les négociations. Ah. C'est bon.
Elle est hallucinante, celle-là. On en a parlé tantôt de cette scène-là, en plus. C'est hallucinant. We're sending somebody into the dossier!
Anybody else want to negotiate?
Fait que c'est ça pour décrire un peu la scène là, des gens que ça fait longtemps qu'ils ont écouté le film ou qu'ils l'ont pas vu. Donc on a Kirkman Dallas qui veut rentrer dans le poste de commandement, mais il y a les méchants terroristes, rhinocéros, je sais pas trop quoi, là, qui ont pris des otages. Fait que là, il arrive à côté de la porte, puis il demande aux responsables combien ils sont. Il dit, je sais pas. Il regarde, il dit, il y a comme 4 en gauche, 3 à droite. Prrr! OK, 2 à gauche, puis 1 à droite. Il faut trouver leur leader, parce que sans ça, sans lui, ils voudront pas se battre. Fait que là, on entend justement une grosse voix qui dit, nous avons les otages! Envoyez quelqu'un pour négocier! Ah, voilà. Nous avons trouvé leur leader. Est-ce que vous me permettez d'aller... Ouais. Puis là, ça donne l'extrait qu'on a entendu. Puis là, après ça, t'as justement le responsable du bateau qui dit « Mais où est-ce qu'il a appris à négocier comme ça? »
Moi, ce que j'aime, c'est le président, après ça, qui dit, parce que je ne l'ai pas gardé, qui dit « Ouais, il regarde le général. Je me demande où est-ce qu'il a appris à négocier de même. » Mais... Ah, je me disais aussi, je pensais, là, tu sais, François a fait le commentaire que le rire de Lilou ressemblait à une sonnerie de téléphone. Je pourrais garder le fichier et me faire ça, tu sais, quand j'en reçois un texto. Chaque fois que j'en reçois un texto. Ah, j'ai un texto.
Un rire de chèvre, man. C'est un rire de chèvre.
Maintenant, il y a un quatrième rire. Parce que, hein, pour terminer ça en beauté.
Il faut bien.
Un quatrième rire. C'est tout.
C'était un Bruce.
Mais tu vois? Hein?
C'était un à Bruce?
Non. À Bruce? Ah non, à Bruce. À Bruce non, Bruce. Non, c'était voyons, le général. Bruce. J'étais comme Bruce Wayne.
Origine aussi du rire de Peter Griffin.
Ah ben oui, hein? C'est vrai. Mais maintenant, je me suis amusé parce que là, il y avait quatre rires cette semaine. La raison pour laquelle j'ai pris le quatrième, c'est pour la prochaine chose qui suit. Je me suis dit, il y a quatre rires qui sont relativement courts. Je me suis amusé un peu, mais j'ai fait ça, OK?
Beau mashup. Beau mashup.
Ah ouais, j'ai travaillé fort pour ces 12 secondes de rire. Ah, je suis niaiseux. Mais...
magnifique.
La musique de Eric Serra, qui est dans le fond le collaborateur de presque toujours de Luc Besson, et qui ne fera pas la musique du prochain film de Luc Besson, en fait.
Ah, parce que savais-tu que jusqu'à date, en fait, à ce jour, Eric Serra est le seul compositeur d'Éric Besson?
Ouais,
c'est
non,
là, toujours lui qui a fait
pas la musique. Ça va être l'autre compositeur français, Alexandre Desplat.
Boulez.
Non, Alexandre. Monsieur Desplat, qui va faire la musique de... Voyons, j'ai oublié le nom du prochain film de Luc Besson. Mais... Bof. Moi, c'est sûr que j'ai mis la trame sonore. C'est un bof. B pour bof.
C'est
non, mais...
très, très, très ordinaire.
Vraiment.
En fait, la seule chose cool de la trame sonore, je trouve, c'est quand il y a la quantité de Jamaïcains qui sont en train de fueler l'espèce de...
Ouais.
De, voyons, je sais pas trop comment dire ça, d'avion interstellaire, de navette ou je sais pas quoi. Là. En tout cas, bref, ils sont en train de le remplir. Puis là, ils filment du pot. Puis il y a du Bob Marley qui joue. Ça fit au bout, c'est bon, j'adore ça, cette scène-là.
Ouais, mais ça, c'est probablement probablement que lui, il avait rien à voir là-dedans, tu sais. C'est genre le designer
c'est
du
monteur,
son, enfin, ouais, qui a fait ça. Mais en même temps, tu vois, c'est une autre affaire où j'ai écouté, puis j'étais comme, man, c'est tout un cliché, un stéréotype assez intense que cette scène-là. Fait que je me disais, coudonc, c'est plein de stéréotypes dans ce film-là, il y a quelque chose là-dessus. Est-ce que Luc Besson se dit que notre société va être de plus en plus forte sur les stéréotypes dans le futur? On sait pas. Maintenant, pour la note. Et je vais y aller en premier, parce qu'il y a de l'explication, puis je sais que la tienne va être meilleure. Je vous dirais que si vous écoutiez, pour la première fois de votre vie, le cinquième élément, si c'était le cas pour moi, peut-être que j'aurais donné... En fait, j'aurais donné un 8. Mais comme c'était pas la première fois de ma vie que j'écoutais le cinquième élément, j'y donne un 7. Parce que je ne crois pas que ce film-là vaut la peine d'être revu. Autant que toi, la semaine dernière, tu disais que Minority Report valait pas la peine d'être revu, puis que moi, je disais le contraire. Mais cette semaine, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On a le même argument dans l'autre sens. Il faut absolument voir le cinquième élément. Faut le voir. Ça vaut la peine. C'est un magnifique film côté visuel. Il y a des choses hyper bien faites visuellement. Tous les exemples que tu as donnés, c'est super. Mais ça n'a pas une histoire qui tient le coup quand tu le réécoutes après ça. C'est beaucoup trop faible, beaucoup trop inintéressant, beaucoup trop vide comme histoire pour qu'on puisse la voir plusieurs fois.
Moi, je donne 9.
Oh, OK!
Moi, je donne 9. C'est un super bon film que j'aime écouter à chaque fois, immanquablement. J'adore ce film. Il est le fun à voir, il est le fun à écouter, les détails sont intéressants. J'en découvre à chaque fois. Je l'aime. 9 sur 10.
Eh bien, tu vois, à 2, ça fait 8. Ce qui, selon moi... IMDb, je crois qu'il est en dessous de 8.
Oups, un peu. J'ai perdu ma peine.
Je crois qu'ils sont...
C'est 7.7. 7.7 sur 10.
Tu vois. À 2, on est proche de la vérité. Ça arrive souvent, en fait.
Ouais, ça arrive très souvent.
On arrive maintenant à la fin de l'émission. Donc, si vous voulez faire un tour sur notre Patreon, allez-y à patreon.com/sbalbino. Vous allez, en nous faisant un petit don comme ça, mensuel, ça peut être 1$ par mois, c'est pas grand-chose. Si vous allez prendre un café chez Starbucks, ça vous coûte plus cher. Bon, 1$ par mois, 4 épisodes de Vision X, ça nous aide à continuer Vision X, à améliorer Vision X au point de vue de l'équipement, parce que bon, ça représente certains coûts, hein, comme là, vous entendez la voix sexy de David grâce à un micro qu'on a acquis pour Vision X. Là, ça serait encore mieux de le voir en HD. Fait que, tu sais, on pourrait y acheter une caméra pour qu'on puisse voir son beau visage de jeune homme. Mesdames, hey,
puis,
messieurs.
Depuis, parce que là, c'est pas super clair, là, mais je commence vraiment à ressembler à Two-Face là, dans...
Ouais.
Dans...
T'as un côté... dans tes cheveux, t'as un côté blanc puis un côté noir. T'es comme trois Marcel, mais juste...
C'est comme une espèce de mini-wheat, là.
Ton côté givré est à gauche. C'est comme dans la vraie vie, c'est comme en politique, hein? Les givrés sont plus à gauche, ceux qui sont ben plein de fibres sont à droite. Vous pouvez aussi, donc c'est ça, aller voir, faire un tour sur Patreon, une pièce par mois, on va être bien content et on va vous aimer éternellement. Vous allez recevoir des trucs en échange, vous allez voir, il y a des récompenses, tout ça. Allez regarder ça. C'est tout pour cet épisode aujourd'hui.
le reste du mois d'octobre, on a décidé d'aller un petit peu... tu sais, bon, on est au mois d'octobre, on approche de l'Halloween. Fait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ben, on va pas directement aller dans les films d'horreur très classiques. Là, j'avais pensé à... Je veux pas écouter des Halloween ou des autres films. Non. On va écouter... La semaine prochaine, on va écouter Jaws. Qui est quand même un film où il y a un petit peu de choses qui font peur, là, puis... Un suspense, c'est vrai. La semaine d'après, on va écouter Zombieland.
Woo!
Et la veille de l'Halloween, le 30, ça va être Shaun of the Dead. Donc, on a un beau petit mois d'octobre planifié pour vous. Fait que, écoutez-nous. Pour être sûr de rien manquer et de pouvoir écouter ces épisodes-là, allez sur notre site internet qui est au moi-geek.com/visionx. Là-bas, vous allez trouver toutes les émissions. Vous allez les voir en format vidéo, audio, les liens pour vous abonner, pour aller l'écouter sur SoundCloud. C'est par là aussi que vous allez pouvoir vous abonner sur vos applications, sur vos téléphones intelligents pour pouvoir nous écouter. Suivez-nous sur Facebook, hein, Vision X Podcast, sur Twitter, à Vision X _ Podcast. Envoyez-nous des courriels, hein, parlez-nous, on est bien fin, on va même vous répondre, je vous le promets. On va même parler de vous, si vous voulez, pendant l'émission. À visionxcast@gmail.com. Donc visionxcast, C-A-S-T, tout en un mot. Écrivez-nous, participez, donnez votre opinion, dites-nous, est-ce que c'est moi qui ai raison sur le cinquième élément, ou est-ce que David a raison, je veux savoir, ok? Allez sur iTunes, ou n'importe où, genre sur Pod Québec, Balado Québec, partout où il y a des podcasts, allez là. Laissez-nous un 5 étoiles si vous aimez l'émission. Si vous aimez pas l'émission, laissez rien partout. Mais c'est pas obligé de mettre un 1 juste pour nous écarrer. Donc, si vous aimez l'émission, laissez-nous un 5 étoiles, une belle critique. Ça nous aide beaucoup parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, j'aimerais ça vous aider, mais j'ai pas nécessairement 1$ par mois. » Mais ça, ça nous aide beaucoup puis ça vous coûte rien. Puis on vous adore après ça. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tous. David, bonne semaine.
Bonne semaine à toi, Seb.
Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine.
Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute.